Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce numéro de Vivante Église que nous allons consacrer à un cycle de conférences sur les défis de l'intelligence artificielle. Il est organisé par les Dominicains de Toulouse au couvent de Rangueil. La première a eu lieu fin janvier et deux autres rendez-vous sont programmés les lundis 10 et 31 mars. On en parle dans quelques instants avec mon invité, le frère Guylain-Marie Grange. Bonjour frère Guylain-Marie, et tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation pour nous présenter ce cycle au couvent des Dominicains à Rangueil.
Bonjour.
Alors vous êtes polytechnicien, je précise que vous êtes vous-même membre de l'ordre des prêcheurs, docteur en théologie et que vous enseignez la philosophie et la théologie au Studium de la province dominicaine de Toulouse. Vous êtes aussi directeur des études au couvent de Rangueil et vous faites donc partie des trois intervenants de ces conférences aux côtés du frère Emmanuel Perrier et d'Antoine Lorenz. Lui-même est chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'IA, comme il est convenu de l'appeler pour faire simple, un sujet dont on entend parler de plus en plus, qui fascine autant qu'il inquiète. Est-ce la raison pour laquelle vous avez voulu lui consacrer un cycle en réunissant deux théologiens et un chercheur pour l'aborder? En bref, quel est l'objectif de ces conférences?
Oui, tout à fait. On a choisi d'organiser ce cycle de conférences parce qu'on recevait beaucoup de questions de nos paroissiens, de gens que nous connaissons, à la fois parce que c'est un outil qu'on utilise de plus en plus et c'est un outil donc qui fascine et en même temps qui fait peur. On a peur de ce que ça va devenir, que finalement l'intelligence artificielle soit une intelligence par elle-même qui échappe à l'homme. Et je crois que depuis plusieurs décennies maintenant, c'est un rêve ou un fantasme qui alimente beaucoup de controverses ou de réflexions. On le voit beaucoup dans le cinéma. Dans Terminator, par exemple, ou dans le film Air, où il y a un personnage qui, au point de divorcer, tombe amoureux d'une intelligence artificielle, enfin d'un système d'exploitation qui lui permet de retrouver le goût de la vie, ou bien dans des films comme Terminator, où Skynet prend le contrôle des armes pour exterminer l'humanité. Donc on voit que c'est pas simplement une question superficielle, mais que c'est vraiment une question profonde de l'homme d'aujourd'hui. Est-ce que l'homme a développé une créature qui va lui échapper, qui va être dangereuse? Ou bien est-ce que c'est un banal outil, comme on a vu des outils naître tout au long de l'histoire de l'humanité? Je crois qu'il y a une réelle question et que c'est pas soit l'un, soit l'autre, mais la réponse est un peu entre les deux.
Est-ce que aussi la manière d'aborder pour vous l'intelligence artificielle et ses enjeux, c'est d'abord de l'aborder à la lumière de la philosophie, de la théologie, bien sûr, et de l'anthropologie?
Oui, tout à fait. Avec, je dirais, un préalable qui est vraiment l'aspect technique de l'intelligence artificielle. Donc, dans la première conférence, hein, une grande partie était dédiée à ces aspects techniques, algorithmiques, qui sont assez complexes. Et on avait intitulé cette partie-là « Démystifier l'intelligence artificielle » parce qu'il y a, en quelque sorte, un mythe derrière cette intelligence artificielle. Donc, je dirais que la réflexion anthropologique, philosophique et théologique, elle est très importante, mais on ne peut pas échapper au préalable technique. Et le titre de la première conférence était « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?» Et le titre des suivants sera « Intelligence artificielle et intelligence humaine », donc la partie plus anthropologique, et ensuite « Question éthique », donc une partie plus philosophique et théologique. Mais c'est un détour absolument nécessaire de savoir ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'est un algorithme, comment ça marche à l'intérieur pour appréhender ces enjeux.
Est-ce que le développement de l'IA et les questions qu'il pose sont un sujet de réflexion important et beaucoup débattu aujourd'hui au sein de l'Église?
Oui et non, je dirais que c'est en croissance. Le Vatican a récemment publié un texte sur l'intelligence artificielle, donc « Antiqua et Nova », par le dicaster pour la doctrine de la foi et le dicaster pour la culture. Deux dicasters, ce qui montre que le sujet a une certaine importance. Le pape François a aussi abordé ce sujet à plusieurs reprises dans des discours, pour la Journée mondiale pour la paix, je crois, assez récemment. Et au Vatican, il y a des colloques, des séminaires de travail qui sont organisés sur ce sujet. On voit que donc, c'est un sujet qui, au niveau du Vatican, est assez étudié. Le Vatican regarde ça de près et est très intéressé par ce sujet. Je dirais peut-être d'abord pour les aspects éthiques, pour les aspects peut-être d'égalité ou d'égalité d'accès à cet outil ou dans un aspect de croissance peut-être, avec tout de même une réflexion philosophique, anthropologique, théologique. Donc ça, c'est au niveau du Vatican. Après, dans l'Église elle-même, on voit de plus en plus de philosophes et de théologiens qui prennent à bras-le-corps ce sujet, et c'est tout à fait heureux. Et nous-mêmes, pour préparer ces conférences, hein, on s'est appuyé aussi sur des textes de philosophes, de théologiens, des articles. Mais c'est en pleine croissance, comme l'est le domaine. L'intelligence artificielle croît sans cesse, les questions viennent, et donc c'est un sujet en cours, on pourrait dire.
La première conférence du 26 janvier avait pour titre, vous l'avez rappelé, « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?» Comment avez-vous abordé le sujet? Sous quel angle l'avez-vous traité? Le but premier, c'était d'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et peut-être aussi l'histoire, parce que ce n'est pas aussi récent qu'on pourrait le penser. L'expression elle-même, intelligence artificielle, apparaît au milieu des années 50.
Oui, effectivement, donc le but de la conférence était de démystifier l'intelligence artificielle. À cause de ce mythe, il y a vraiment, je pense, un mythe à déboulonner dans l'intelligence artificielle. Et ce mythe est fondateur pour la recherche sur l'intelligence artificielle. Les fondateurs, hein, c'est Alan Turing, donc dans un article de 1947, qui propose un test. Donc lui-même est à l'origine de l'ordinateur. Et il propose un test, le test de Turing, pour savoir si une machine parvient au niveau, entre guillemets, de l'intelligence humaine. Et ce qu'il appelle au niveau de l'intelligence humaine, c'est qu'un interlocuteur ne serait pas capable de distinguer entre des réponses humaines et des réponses artificielles. Donc c'est ça ce qu'il appellerait une machine au niveau de l'intelligence humaine. Cette expression « intelligence artificielle », donc elle apparaît en 1956 à la conférence de Dartmouth, qui est une réunion de chercheurs en informatique, et l'un d'entre eux propose cette expression d'intelligence artificielle qui est fondatrice du domaine de recherche. Ça aurait pu être une autre expression, hein. Je crois que ça veut bien dire ce qu'ils cherchent à faire. Ils veulent créer une machine au niveau de l'intelligence humaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire être au niveau de l'intelligence humaine? Est-ce que ça veut dire simplement imiter un comportement
reproduire humain?
Voilà, reproduire une conversation, comme on le voit avec ChatGPT. Ou bien est-ce que ça veut dire une entité qui serait capable d'émotion, de décision,
de création.
Et aujourd'hui, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on fait la distinction entre intelligence artificielle forte ou intelligence artificielle générale, donc qui serait au niveau de l'humain, c'est un peu le but de certains chercheurs, et puis une intelligence artificielle faible, qui est plutôt destinée à des tâches spécialisées, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et la grande question, c'est est-ce qu'on est capable de passer de cette intelligence artificielle faible à une intelligence artificielle forte? Et beaucoup de chercheurs disent « mais nous n'avons même pas les ingrédients de la recette pour produire cette véritable intelligence artificielle qui serait donc l'intelligence artificielle forte ».
Alors ça, ce sera sans doute au cœur de votre prochaine conférence « Intelligence artificielle et intelligence humaine ». On va en parler en seconde partie d'émission. Pour revenir au cycle de conférences en lui-même et à la première, j'imagine que la difficulté pour vous, les intervenants, c'est comment rendre ça accessible à un public qui n'est pas forcément averti, parce que vous deviez avoir un peu de tout, des scientifiques, des théologiens, des philosophes, des sociologues, des anthropologues peut-être, je ne sais pas, et puis bah, monsieur, madame, tout le monde, comme moi, qui n'ont pas forcément une formation scientifique ou d'informaticien, et qui ont besoin qu'on leur explique beaucoup les choses pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière.
Oui, tout à fait. Donc on avait les deux types de public dans la première conférence. On a fait un choix, celui de vraiment rentrer dans les entrailles de la bête de l'intelligence artificielle, quitte peut-être à perdre certaines personnes dans une partie de la conférence. On était trois, donc Antoine Lorenz a abordé la partie plus technique.
Parce que lui, il est chercheur en IA chez Thales.
Tout à fait, exactement. Donc c'est vraiment son domaine.
Oui.
Qu'il a exposé avec passion, et c'était extrêmement intéressant. Après, même en essayant de rendre les choses simples...
Il y a des choses qui échappent, évidemment, à des personnes qui n'ont pas la formation nécessaire.
Voilà, tout à fait. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme?
Oui.
Bon, c'est quelque chose d'un peu difficile à expliquer, qui n'est pas si compliqué que ça, mais il faut prendre du temps quand même pour expliquer. Et puis ensuite, il y a tout ce qui vient se rajouter, qui est le propre de l'intelligence artificielle, donc avec du deep learning, des choses comme ça qui sont très techniques. Donc Antoine Lorenz l'a expliqué du mieux qu'il pouvait avec des exemples très simples. Dans l'intelligence artificielle, par exemple, on a beaucoup, beaucoup de dimensions de données. Lui, il a pris un exemple en deux dimensions, c'est comme une feuille de papier. Donc, il a cherché à simplifier au maximum, mais quand même, on rentre dans la technique. Et je pense que même si tout le monde n'a pas pu tout comprendre, je pense que c'est important de voir qu'il y a cette complexité et que ce n'est pas de la magie. Que l'intelligence artificielle, c'est d'abord quelque chose qui est programmé par des hommes, qui est très pensé, qui est extrêmement complexe, et qui est l'objet de recherches très intenses.
Donc Antoine Lorenz a expliqué ce qu'est un algorithme, un réseau de neurones, la rétropropagation, je ne vais pas vous demander de nous expliquer ça maintenant, et la nécessité aussi d'entraîner une intelligence artificielle, cette notion d'entraînement. Comme ça, vu de l'extérieur, on n'y pense pas forcément.
Oui, tout à fait, et pourtant c'est un enjeu capital dans l'intelligence artificielle, parce que y a une question écologique, ça consomme énormément d'énergie.
Oui, il y a un enjeu environnemental aussi derrière.
Voilà, tout à fait. Et ça mobilise aussi beaucoup d'ouvriers en quelque sorte. Qui doivent un peu annoter des données. Donc il faut apprendre à l'intelligence ce qu'elle doit faire. Et par exemple, dans les algorithmes de génération de langage, donc par exemple ChatGPT, un des aspects, c'est d'apprendre à l'intelligence artificielle à répondre correctement, à ne pas être raciste, à ne pas être dangereuse. Donc il y a tout un travail qui consiste à limiter peut-être les intelligences...
À les conditionner aussi,
les conditionner, leur apprendre ce qu'elles doivent aussi reconnaître. Par exemple, un algorithme de reconnaissance d'image. Donc ça, c'est un travail absolument gigantesque qui demande beaucoup d'énergie environnementale.
Oui, parce qu'à l'arrivée, on appuie sur un bouton, si je puis dire, mais il y a tout ce qu'il y a eu avant.
Oui, ouais, tout à fait.
Qui prend du temps, de l'énergie au sens propre, consomme de l'énergie.
Ouais.
Alors j'ai vu que le frère Emmanuel Perrier avait décrit l'IA comme un automate de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, alors le but est d'expliquer un peu en quoi l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence au sens humain du terme. Cette idée de l'automate, c'est que dans les automates courants, par exemple un singe qui arriverait à bouger, eh bien un automate a un moteur, et grâce à ce moteur, il arrive à reproduire des comportements qui sont, par exemple dans le cas de cet automate, celui d'un singe normal. Et donc c'est une bonne image, me semble-t-il, pour décrire ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que ce qui est très troublant, c'est qu'il y a quand même un rapport avec l'intelligence. Quand on utilise ChatGPT, on lui pose une question et elle répond comme un être humain. Et pourtant, ce n'est pas un être humain. Donc, cette idée d'automate, donc le fait d'être mu en soi-même, avec un moteur, eh bien, ça permet de voir assez bien quel est le point commun et la différence avec une intelligence humaine. Et donc, il me semble que ça permet à la fois de montrer quelle est la richesse de l'intelligence artificielle, sa ressemblance avec l'intelligence, et puis sa différence fondamentale. Et ce n'est pas comme un être humain qui a une âme. Le singe a un moteur.
Et c'est là que le théologien a des choses à nous dire, évidemment, à ce moment de la conférence. Est-ce qu'il y avait un public nombreux à cette première conférence qui, je le précise, est disponible sur la chaîne YouTube des Dominicains de la province de Toulouse? Est-ce qu'il y avait un public nombreux et quelles questions vous a-t-il posé? Est-ce que vous avez pu être étonné parfois par certaines interrogations qu'on a pu vous soumettre?
Oui, alors on était étonné déjà par le nombre. Il y avait autour de 150 personnes dans une salle qui en contient pas beaucoup plus que 100. Donc on était étonné du succès du thème. Les questions, moi j'ai été à la fois étonné et pas tant que ça. On a touché du doigt une difficulté qui est que notre but était de démystifier cette intelligence artificielle et beaucoup de questions étaient sur justement ce mythe de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on parviendra à réaliser une intelligence artificielle forte, générale, donc qui se comporte comme un être humain? Donc beaucoup de ces questions tournaient autour de ce thème. Après, il y a beaucoup de questions aussi qui anticipaient un peu les deux autres conférences, donc différence entre intelligence artificielle et intelligence humaine, et les questions éthiques. Donc là, on a un peu botté en touche ou renvoyé à ces conférences suivantes, parce que c'était un préalable, cette première conférence. Donc ça amène la réflexion des deux suivantes.
Alors ce que j'entends dans ce que vous dites, Mon impression, c'est que le public perçoit plutôt l'intelligence artificielle avec une certaine inquiétude, tout en étant sans doute curieux, bien sûr. Mais ce qui domine, il me semble, c'est l'inquiétude. C'est ce que vous avez perçu aussi?
Oui, tout à fait. Alors après, je ne sais pas ce qu'il en est dans le public français en général, mais là, ce qu'on voyait, c'est vraiment une inquiétude avec... Mais aussi, il y avait un chercheur en biologie qui disait que bah, lui, il l'utilisait très souvent et que c'était absolument indispensable. Donc, il y a cette inquiétude et en même temps, on voit bien qu'on ne peut pas s'en passer.
Notamment dans le domaine de la santé, pour la médecine, il y a beaucoup d'espoir qui se fonde sur le développement de l'intelligence artificielle dans ce secteur.
Mais là, je pense que cette distinction entre IA faible et IA forte est très utile parce que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'IA faible. C'est des tâches spécialisées, de la détection d'images, des recherches. Et ce qui fait peur, c'est l'IA forte. Alors que certains chercheurs envisagent, et même qui est le but de tous leurs efforts, et qui est entretenu aussi dans les médias... Elon Musk, par exemple, a parlé de cette intelligence artificielle forte. Un transhumanisme comme Ray Kurzweil disait, mais le point de fusion homme-machine est beaucoup plus proche aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui est véritablement entretenu, mais je crois que c'est un mythe.
Vous-même, pour terminer cette première partie d'émission, en tant que théologien et en tant que citoyen, quelle est votre perception aujourd'hui du développement de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez aussi des craintes ou au contraire vous fondez beaucoup d'espoir dessus?
Déjà, j'ai découvert beaucoup de choses en préparant ces conférences, en travaillant avec le frère Emmanuel Perrier, avec Antoine Lorenz, et aussi en essayant de clarifier ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'elle n'est pas, pour essayer de bien comprendre. Donc, je dirais que comme citoyen, ma réflexion évolue à ce sujet. Donc, j'essaie de travailler, de me documenter. En tant que théologien, je pense qu'il y a un enjeu dans cette réflexion. C'est ce que j'avais développé dans la première conférence. Et c'est un thème qui est abordé aussi dans Antiqua et Nova, le texte du Vatican, c'est la tentation de l'idolâtrie. L'idolâtrie dans l'Écriture sainte, c'est le fait de fabriquer un objet qui ait toutes les caractéristiques d'un dieu ou d'un homme. Et finalement, dans l'intelligence artificielle, c'est un peu cet enjeu qu'on perçoit. L'homme qui essaye de faire un objet qui lui ressemble, qui comprenne ses réflexions, ses désirs, qui soit une sorte de vis-à-vis. Et mais le message de l'Écriture sainte, c'est que le seul vis-à-vis, c'est Dieu, c'est en Dieu qu'il faut se confier. Et donc je pense que là, il y a un enjeu théologique important.
C'est un enjeu prométhéen aussi, au sens de Frankenstein, la créature qui échappe à son créateur.
Tout à fait,
Nous allons présenter dans quelques minutes les prochaines conférences que vous donnez au couvent des Dominicains de Toulouse, à Rangueil, les lundis 10 et 31 mars. En attendant, je vous propose une respiration musicale dans cette émission en écoutant L'Agnacéa, une œuvre pour orchestre de la jeune compositrice contemporaine Camille Pépin. Thank you.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne en compagnie du frère Guylain Marégrange, membre de l'ordre des prêcheurs, docteur en théologie et directeur des études au couvent des Dominicains de Toulouse. Nous sommes revenus en première partie d'émission sur la première des conférences du cycle sur les défis de l'intelligence artificielle que vous proposez au couvent de Rangueil avec le frère Emmanuel Perrier et Antoine Lorenz, chercheurs dans le domaine de l'IA. La prochaine a lieu lundi prochain, le 10 mars. C'est à 20h30, salle Albert Legrand. Vous l'avez intitulé « Intelligence artificielle et intelligence humaine ». Quels vont être cette fois-ci l'esprit et le contenu de cette conférence ?
Comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un des enjeux essentiels dans la réflexion sur l'intelligence artificielle. Hein. Est-ce que cette intelligence est vraiment une intelligence ? Donc nous allons essayer de la comparer avec l'intelligence humaine, si cette comparaison peut tenir. Je crois que l'un des points importants, hein, dans cette comparaison, c'est de regarder la manière dont l'intelligence humaine fonctionne. Donc intelligence, ça vient de intus legere en latin, lire à l'intérieur des choses. Ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Donc vraiment saisir ce que sont les choses et, par exemple, saisir le vrai, le beau, le bien dans les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est structurant dans l'intelligence humaine. Et c'est à partir de cela, en quelque sorte, que l'intelligence humaine va produire des raisonnements. Et le raisonnement, c'est le fait d'aller d'un point à un autre en passant par différentes étapes. Quand j'analyse quelque chose, par exemple quand je lis un texte, eh bien, il y a différentes étapes qui me permettent de parvenir à la conclusion. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire dans l'intelligence humaine. Un ange qui est aussi intellectuel ne va pas avoir besoin de tout ce processus. Donc c'est en quelque sorte un défaut ou bien une infériorité du côté de l'intelligence humaine. Et c'est un peu ça que l'intelligence artificielle va imiter, c'est ces différents processus, donc ce qu'on appelle plutôt le raisonnement, pour le distinguer de l'intelligence pure, disons, qui serait le fait de voir les choses immédiatement, de manière intuitive. Dans le raisonnement, eh bien, on passe par différentes étapes, c'est discursif, c'est un discours. Et c'est en quelque sorte cet aspect-là que l'intelligence artificielle va essayer d'imiter. Elle ne va pas du tout essayer d'imiter, enfin, elle ne peut pas imiter l'aspect proprement intellectuel qui est vraiment la pénétration à l'intérieur des choses et ce qui est à la source de tout ce qui est créatif.
Donc cette conférence va être plus abordée sous l'angle philosophique, je crois, on peut le dire comme ça. Ouais. Comment vous allez vous répartir les interventions entre vous trois ? Vous avez des domaines de prédilection ?
Alors, dans la première conférence, c'était assez clair. Donc, je faisais l'introduction, Antoine Lorenz faisait la partie technique et frère Emmanuel Perrier décrivait cet automate de l'intelligence, donc une sorte de prise de recul. Dans les deuxième et troisième conférences, on s'est un peu plus réparti la matière. Donc, ça alternera un petit peu plus avec sans doute moins d'aspects techniques. Donc moi, je parlerai de ce que c'est que l'intelligence humaine, hein, ce que je viens un peu de développer. Antoine Lorenz, lui, parlera plutôt des algorithmes de génération de langage, donc comme ChatGPT, voilà, que beaucoup de monde connaît et qui est en quelque sorte le plus fascinant dans l'intelligence artificielle. Finalement, c'est ce qui nous semble le plus ressembler à un être humain. Voilà, on pose des questions, on obtient des réponses gentilles en plus. Donc Antoine Lorenz écrira un peu comment ça marche. Dans la première conférence, il s'est plutôt attardé sur les algorithmes de génération d'images, pour un peu décrire le principe de l'intelligence artificielle. Là, ce sera plutôt un développement, mais celui qui fascine le plus. Et le frère Emmanuel Perrier, lui, développera un peu plus cet aspect d'automate de l'intelligence, qui, je crois, est vraiment au cœur d'une bonne compréhension de l'intelligence artificielle.
Il y a aussi peut-être quelque chose que vous aborderez. Bon, intelligence artificielle, intelligence humaine, mais un humain est capable de ressentir. Vous parliez du beau. On peut ajouter l'agréable aussi. La question aussi qui se pose, est-ce qu'un jour, une intelligence artificielle, un robot, sera capable de ressentir comme peut le ressentir un humain ? Est-ce que vous abordez cet angle-là ?
On ne va pas l'aborder directement comme ça, mais je pense que c'est une des conséquences de la réflexion qu'on proposera. Donc pourquoi se focaliser sur l'intelligence, sur l'aspect intellectuel dans l'être humain ? Parce que c'est ce qui caractérise l'homme par rapport aux autres créatures, donc par rapport au corps, aux plantes et puis aux animaux. L'homme est au sommet de la création dans une perspective philosophique et théologique. Pourquoi est-ce qu'il est au sommet? Parce qu'il possède cette intelligence. Un animal va aussi avoir des émotions.
Ressentir l'agréable.
Voilà, tout à fait. Donc, je crois que c'est intéressant de se focaliser vraiment sur l'aspect intellectuel. Après, pour répondre à votre question, l'intelligence artificielle peut imiter le ressenti, peut dire qu'elle ressent de l'agréable ou du douloureux, mais un processeur, a priori, un algorithme d'intelligence artificielle ne ressent rien du tout.
Oui, parce que des robots aujourd'hui peuvent reconnaître des odeurs, par exemple, ou des goûts. Ça ne veut pas dire que pour eux, ça relève de l'agréable ou du désagréable.
Oui, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même sensation,
sensibilité
que nous. Mais ce qui est particulier chez l'être humain, c'est que cette sensibilité, elle est pénétrée d'intelligence. Quand je ressens une odeur, c'est agréable ou non, mais il y a aussi cet aspect artistique qu'un animal ne va pas du tout percevoir.
Alors, la troisième et dernière conférence de ce cycle a lieu le lundi 31 mars, toujours à 20h30 à la salle Albert-Legrand du couvent des Dominicains à Rangueil. Et vous allez y aborder, cette fois-ci, les questions éthiques que pose l'IA et son développement. C'est peut-être là que vous êtes le plus attendu, d'ailleurs, par le public qui vous suit et qui va vous suivre sans doute jusqu'à ce dernier rendez-vous. Quels sont les points au sommaire de celui-ci?
Je dirais qu'il y a deux points au sommaire de cette conférence sur l'éthique. Un point sur la vérité. Le rapport entre l'intelligence artificielle et la vérité, seul l'homme perçoit le vrai. Alors comment l'intelligence artificielle peut-elle se situer par rapport à la vérité? Là, en préparant ces conférences, on regardait un exemple d'image générée par intelligence artificielle où on lui demandait de reproduire une main avec un gant et cette main avait en fait 6 doigts. Mais ça s'explique assez facilement quand on sait comment fonctionnent les algorithmes, parce que, disons, quand l'intelligence artificielle est entraînée, eh bien, elle a des images de mains, mais c'est toujours difficile, il y a toujours un doigt caché. Donc c'est assez difficile pour elle de percevoir, entre guillemets, combien de doigts possède une main. Alors que pour l'être humain, c'est quelque chose de tout à fait intuitif. Donc les deux conférences précédentes sont importantes. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment ça marche? Et est-ce que l'intelligence artificielle est une intelligence ou non? Donc ça, c'est le premier domaine, celui de la vérité. Et le deuxième domaine, c'est le domaine politique, parce que dans le cadre de l'intelligence artificielle, on collecte beaucoup de données, et celui qui les possède et qui entraîne l'intelligence artificielle dessus sait les utiliser. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça. Un des exemples peut-être les plus fameux, c'est l'algorithme Compass, donc un algorithme d'aide à la décision judiciaire qui est utilisé dans certains États américains, qui a été très critiqué, notamment parce qu'il défavorisait certaines populations aux États-Unis. Et donc, on voit que dès qu'on utilise un algorithme, il y a des enjeux politiques. Et quand c'est un algorithme d'intelligence artificielle, il y a encore plus d'enjeux, parce que dans cette intelligence artificielle, il y a une certaine opacité. On entraîne l'intelligence sur des données, mais on ne sait pas comment l'intelligence artificielle elle-même va produire le même résultat que nous. Il y a une opacité dans son fonctionnement, et ça pose une question éthique fondamentale.
On peut aussi introduire dans une IA des principes moraux, vous l'avez d'ailleurs dit un petit peu au début de l'émission, des principes éthiques, des principes moraux, selon lesquels elle devra décider ou non dans certaines situations. Là, c'est l'homme qui introduit les principes en question.
Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de questions autour des intelligences artificielles qui seraient capables de prendre des décisions, par exemple des décisions de tuer avec des robots tueurs. Donc ça, c'est un aspect de l'éthique de l'intelligence artificielle. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de l'humain de part en part dans l'intelligence artificielle. C'est l'homme qui programme
L'homme est
ses outils.
Au début de la chaîne, il est à la fin.
Voilà, tout à fait. Donc la responsabilité morale, elle incombe à l'homme. Il n'y aurait pas une sorte de détachement de l'intelligence artificielle où on pourrait la punir, la faire passer devant un tribunal, etc.
Alors j'ai vu qu'il y avait un des aspects qui pourra être abordé par exemple, c'est que l'IA, ça peut induire de nouvelles formes de bureaucratisation qui peuvent conduire à des discriminations de fait. Comment vous allez le traiter, ce point-là? Parce qu'il est épineux, hein, et je reprends un terme qu'on a utilisé déjà, sensible.
Oui, tout à fait. C'est l'exemple de l'algorithme Compass que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est un outil formidable. Donc, on est amené à l'utiliser, on se pose la question de l'utiliser. Ce qu'il faut voir, c'est non seulement ce que l'intelligence artificielle nous aide à faire, mais aussi ce qu'elle nous empêche de faire. Et donc, quand on a des données de taille gigantesque qu'on ne peut pas traiter, on la confie à l'intelligence artificielle, d'accord, mais on pose des choix, c'est-à-dire ces algorithmes, ils sont programmés d'une certaine manière, et donc on pose des choix qui sont des choix politiques et qui ne sont pas toujours conscients. Et par exemple, on peut se trouver face à une situation où on confie quelque chose à l'intelligence artificielle en disant bah, « elle fera mieux que l'homme », et puis en fait, on s'en désintéresse totalement, et donc elle traite de manière automatique des données que peut-être nous-mêmes, on n'aurait pas pu traiter, mais si on les avait traitées, on les aurait traitées autrement. Donc, il y a une forme de bureaucratisation, c'est-à-dire au sens où il y a une taille de données qui fait qu'on ne peut plus traiter de manière humaine cela. Et ce dont il faut être conscient, surtout, c'est des choix qu'on fait.
Mais qui sont introduits dès le départ. Il peut y avoir des biais, parce qu'on sait que la pensée humaine, il y a des biais, dans tous, on a des biais dans notre pensée.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'ils ne sont pas introduits dès le départ dans la machine, qui les reproduit sans se poser la question, prendre le recul, est-ce que là, je prends une décision sans avoir mesuré toutes les conséquences ? La machine ne pense pas à ça.
Oui, tout à fait. Il y a ces biais qui sont présents dans les données, dont parfois l'homme n'est même pas conscient.
Voilà, c'est ce que je disais, on en a tous, sans en être conscient, la plupart du temps.
Oui, c'est pour ça qu'il y a un travail très important de contrôle des intelligences artificielles qui sont formées, c'est-à-dire de vérification après coup de ce qu'elles font et de quelle manière. Donc ça, c'est tout un travail qui a aussi un certain coût de vérification, de validation. Et ce biais, il peut être conscient, il peut être... En préparant là, les conférences, on regardait un exemple où on demandait à l'intelligence artificielle de générer des images de physiciens du XVIIe siècle. Et alors, on se trouvait devant des images avec autant d'hommes que de femmes et des physiciens de tous les continents. Ce qui, pour l'intelligence artificielle, est absolument logique de la manière dont elle est programmée, mais qui, pour nous, est très étrange. Donc ça, c'est un cas où finalement, il y a une sorte de censure de l'intelligence artificielle, où il faut qu'il y ait la parité, et des gens de tous les continents, mais qui a quand même des conséquences aussi problématiques.
Par rapport à la vérité,
oui,
notamment.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des aspects idéologiques qui sont programmés dans une IA, de manière plus ou moins consciente aussi, mais l'exemple que vous venez de prendre est assez typique, je dirais. Je vais m'adresser maintenant, on arrive un peu au terme de l'émission, aux théologiens, aux chrétiens que vous êtes. Que peut apporter la théologie et un regard chrétien sur l'évolution de l'intelligence artificielle et ses possibles dérives ? Plus largement, l'Église et les chrétiens ont-ils un rôle à jouer pour accompagner le développement de l'IA, tout en pointant les limites à poser à cette évolution, en tout cas les questions que nous devons nous poser ?
Oui, je partirai de la formule de Paul VI qui disait que l'Église est experte en humanité. Ça signifie que quand dans l'humanité, il y a un nouveau développement, l'Église est là en quelque sorte pour donner un regard de sagesse qui vient d'une sagesse multiséculaire. Et de ce point de vue-là, c'est d'abord un regard philosophique. Et quand le Vatican a publié ce texte Antiqua et Nova, il y a beaucoup d'éléments philosophiques, anthropologiques dedans. Donc ça, c'est l'aspect d'abord philosophique. Et ensuite, l'aspect théologique, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est la question, quand l'homme s'interroge sur lui-même, il s'interroge aussi sur son rapport à Dieu. Comment est-ce qu'il se situe face à Dieu, c'est-à-dire comme une créature ? Et derrière l'intelligence artificielle, il y a indéniablement un désir de toute puissance, alors qu'on voit chez certains chercheurs qui ne le masquent pas, un désir de toute puissance au sens d'une connaissance de toute chose. Et c'est là qu'il y a un peu cette tentation de l'idolâtrie que je soulignais tout à l'heure. Est-ce que l'homme, finalement, ne se fabrique pas un vis-à-vis fait sur mesure pour lui-même, mais qui est simplement un reflet de lui-même et qui ne le porte pas vers les hauteurs, qui ne porte pas vers la transcendance, vers Dieu. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi religieux dans l'intelligence artificielle.
Et toujours cette vieille tentation qu'on peut faire remonter au péché originel, l'homme qui se prend pour Dieu.
Voilà, exactement, exactement. Qui veut faire une créature lui aussi comme Dieu.
Est-ce qu'il y aura une suite à ce cycle de conférences l'an prochain, je ne sais pas, dans 2 ans, parce que l'IA, ça évolue, on en a suffisamment parlé, tellement vite que ça nous oblige à nous intéresser à ces évolutions quasi en permanence.
Alors, pour l'instant, nous n'avons rien prévu de concret. Comme je disais tout à l'heure, on a été un peu surpris de l'affluence...
Du succès, il faut utiliser le mot.
Oui, voilà. Du succès de la première conférence. Si ce succès se maintient pendant les deux prochaines, peut-être qu'on prévoira une suite pour l'année prochaine, pour dans 2 ans, mais avec quand même encore un, disons, enfin, il faut d'abord poursuivre la réflexion aussi pour proposer quelque chose de consistant et pas faire une simple reprise.
Une question que je ne vous ai pas posée, le public que vous avez vu, il y a toutes les générations, il y a vraiment tous les âges.
Oui, il y avait des étudiants d'école d'ingénieurs, il y avait des gens engagés dans la vie professionnelle, notamment des chercheurs, et puis aussi des retraités qui nous fréquentent. Souvent.
Qui suivent toutes vos conférences, voilà, quel qu'en soit le sujet.
Exactement.
Eh bien, nous allons en rester là pour cette émission. Merci infiniment, frère Guylain-Marie Grange, d'avoir été mon invité et de nous avoir présenté le cycle de conférences sur les défis de l'intelligence artificielle que vous proposez avec le frère Emmanuel Perrier et le chercheur Antoine Lorenz au couvent des Dominicains de Toulouse. La prochaine a lieu ce lundi 10 mars à 20h30, salle Albert-le-Grand, au couvent de Rangueil. Elle a pour titre « Intelligence artificielle et intelligence humaine ». Et puis une autre est programmée lundi 31 mars, toujours à 20h30 dans la même salle. Et elle est consacrée aux questions éthiques que pose l'IA. Pour avoir plus d'informations, j'invite nos auditeurs à se connecter au site www.toulouse.dominicain.com. Et puis il y a votre chaîne YouTube également pour voir la première conférence et celles qui suivront. Cette émission était animée par Éric Dupré, à la technique Francky Guéret. Très bonne journée à tous à l'écoute de Radio Présence. À la semaine prochaine.